Chapitre 6. Terre. 21. Trévise était en rogne, embêté. Il était assis en compagnie de Pellorat dans le petit coin repas du vaisseau où ils venaient juste d'achever leur collation de midi. Pellorat parlait.
« Nous ne sommes dans l'espace que depuis 2 jours, et je m'y trouve comme un poisson dans l'eau, même s'il me manque un peu l'air pur, la nature et tout ça. Bizarre, non? Surtout que je n'avais jamais remarqué ce genre de choses lorsqu'elles m'entouraient. En attendant, entre ma gaufre et ce remarquable ordinateur que vous avez à bord, j'ai toute ma bibliothèque avec moi, ou en tout cas le plus gros de ma documentation, et je n'ai plus la moindre peur d'être dans l'espace à présent. Surprenant !»
Trévise se contenta de répondre par un borgborigme. Il avait le regard perdu dans le vague. Pellorat reprit doucement.
« Je ne voudrais pas être indiscret, Golan, mais je n'ai pas vraiment l'impression que vous m'écoutez. Non pas que je sois un interlocuteur particulièrement passionnant, j'ai toujours été un peu rasoir, vous savez. Pourtant, vous m'avez l'air préoccupé par autre chose. Aurions-nous un pépin ?
Il ne faut pas avoir peur de me le dire, vous savez. »
D'accord, je ne pourrai pas y faire grand-chose, je suppose, mais je ne paniquerai pas, mon jeune ami.
Un pépin ? Trévise parut retrouver ses sens, fronça légèrement les sourcils.
Je parle du vaisseau. Comme c'est un nouveau modèle, je me suis dit que quelque chose pouvait clocher à bord.
Pellorat se permit un petit sourire incertain. Trévise hocha vigoureusement la tête.
« Quelle bêtise de ma part de vous avoir laissé dans une telle incertitude, Janov. Il n'y a absolument rien qui cloche à bord. Le vaisseau fonctionne à la perfection. Simplement, je suis à la recherche d'un hyper-relais. »«
Ah, je vois. Sauf que je ne vois pas. C'est quoi, un hyper-relais ?»«
Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer, Janov. Je suis en communication avec Terminus. Du moins, je peux à tout moment... entrer en contact avec Terminus et vice-versa. Ils connaissent notre position, d'après l'observation de la trajectoire du vaisseau. Et même sans ça, ils pourraient toujours nous localiser dans l'espace immédiat en cherchant à y détecter une masse, signe de la présence d'un vaisseau ou à la rigueur d'une météorite. Ils pourraient ensuite chercher à détecter une émission d'énergie, ce qui non seulement permet de distinguer un vaisseau d'une météorite, mais autorise en plus son identification précise, puisqu'il n'y a pas 2 astronefs à utiliser l'énergie de la même manière. En quelque sorte, la structure de notre émission d'énergie demeure caractéristique, quels que soient les équipements ou les instruments que l'on fasse ou non fonctionner. Le vaisseau peut évidemment être inconnu, mais si sa structure énergétique est enregistrée à Terminus, comme c'est le cas pour notre appareil, on pourra l'identifier, sitôt détecté.
« Il me semble, » remarqua Pellorat, que le progrès de la civilisation tend essentiellement à limiter la vie privée des gens.
Vous avez peut-être raison. Tôt ou tard, pourtant, il nous faudra bien pénétrer dans l'hyperespace, sinon nous serons condamnés à rester à 1 ou 2 parsecs de Terminus jusqu'à la fin de nos jours, incapables d'amorcer la moindre traversée interstellaire. En passant par l'hyperespace, en revanche, on se glisse dans une discontinuité de l'espace normal. On passe d'ici à là, et quand je dis cela, je parle d'un saut qui peut atteindre des centaines de parsecs, en un éclair de temps subjectif. On se retrouve d'un seul coup extrêmement loin et dans une direction fort difficilement prévisible, ce qui, en pratique, nous rend alors indétectables.
Je vois, oui.
Sauf, bien entendu, si l'on a planqué à bord un hyper-relais. Celui-ci, en effet, émet en permanence un signal caractéristique du vaisseau, ce qui permettrait à tout moment aux autorités de Terminus de savoir où nous sommes. Voilà qui répond à votre question, voyez-vous. Nous n'aurions plus un endroit où nous cacher dans toute la galaxie. Aucun enchaînement de sauts dans l'hyperespace ne pourrait nous garantir d'échapper à leurs instruments.
« Mais, Golan, » dit doucement Pellorat, « ne cherchons-nous pas à avoir la protection de la Fondation ?»«
Certes, Janov, mais seulement quand on le demandera. » Vous avez remarqué vous-même que le progrès de la civilisation signifiait un accroissement des atteintes à la liberté. Eh bien, je n'ai pas envie d'un tel progrès. Je veux être libre de me déplacer incognito, à ma guise, tant que je n'aurai pas envie ou besoin de protection. Voilà pourquoi je me sentirais mieux, considérablement mieux, si j'étais sûr de ne pas avoir d'hyper-relais à bord.
Et en avez-vous trouvé un, Golan ?
Non. Sinon, j'aurais bien trouvé le moyen de le rendre inopérant.
Seriez-vous en reconnaître un de vue ?
C'est bien là l'une des difficultés. Je pourrais fort bien ne pas le reconnaître. Je sais à quoi ressemble en gros un hyper-relais, et je sais comment tester un objet qui me paraît louche. Seulement, ce vaisseau est du dernier modèle, et conçu pour des missions bien particulières. On peut très bien avoir implanté un hyper-relais au milieu de ses composants de telle manière qu'il soit indétectable.
D'un autre côté, peut-être n'y a-t-il pas d'hyper-relais,
ce qui expliquerait pourquoi vous n'en avez pas trouvé. Je n'y mettrai pas ma main au feu. Et je n'aime pas l'idée d'accomplir un saut sans être certain.
Pellerat parut s'illuminer. Et voilà pourquoi nous dérivons de la sorte dans l'espace. Je me demandais bien pourquoi nous n'avions pas encore fait de saut.
Je suis un peu au courant, vous savez.
J'étais même rien nerveux à me demander si vous n'alliez pas m'obliger à me harnacher et à prendre des comprimés ou je ne sais trop quoi.
Trévis parvint à sourire. Ne vous inquiétez pas. On n'est plus à l'époque héroïque. Sur un vaisseau comme celui-ci, il n'y a qu'à laisser faire l'ordinateur. Vous lui donnez vos instructions et il se charge du reste. Vous ne vous rendez même compte de rien, sinon que le ciel a soudain changé. Si vous avez déjà assisté à un diaporama, vous voyez quel effet ça produit lorsqu'on passe brusquement d'une vue à l'autre. Eh bien, le saut, c'est tout comme.
Sapristi ! On ne sent vraiment rien !
Comme c'est bizarre.
Je trouve même ça un tantinet décevant.
Moi, en tout cas, je n'ai jamais rien senti, et les vaisseaux sur lesquels j'ai navigué étaient loin d'être aussi perfectionnés que ce petit bijou. Mais ce n'est pas à cause de l'hyper-relais que nous n'avons pas sauté. Il faut d'abord attendre d'être un peu plus éloigné de Terminus, et du Soleil aussi. Plus on est éloigné d'un objectif massif, et plus il est facile de contrôler le saut pour émerger à nouveau dans l'espace normal précisément aux coordonnées voulues. En cas d'urgence, on peut toujours risquer un saut à 200 km seulement de la surface d'une planète et se fier à la chance pour s'en sortir intact. Vu qu'il y a tout de même plus d'espace libre dans la galaxie que de volume occupé, on peut raisonnablement tabler sur une issue heureuse. Mais il faut toujours envisager que des facteurs aléatoires peuvent vous faire émerger de nouveau à quelques milliards de kilomètres d'une grosse étoile, voire dans le noyau galactique. Et là, vous vous retrouvez rôti avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Plus on est loin d'une masse, plus ces facteurs diminuent, et moins donc on a des risques de voir se produire quelque événement fâcheux.
Dans ce cas, je ne saurais trop vous recommander la prudence. Après tout, nous ne sommes pas pressés.
Exactement. D'autant que j'aimerais franchement mieux avoir déniché cet hyper-relais avant de bouger, ou du moins trouver le moyen de m'assurer qu'il n'y en a pas.
Trévis parut retomber dans ses réflexions, et Pellerat, haussant légèrement le ton pour surmonter la barrière des préoccupations de son interlocuteur, demanda « Quel délai nous reste-t-il ? »
« Hein ?
Je veux dire, quand effectueriez-vous le saut si vous n'aviez pas à vous préoccuper de cet hyper-relais, mon bon ami ?»«
Compte tenu de notre vitesse actuelle et de notre trajectoire, je dirais vers le 4e jour de vol. Je vais calculer le moment précis sur l'ordinateur. »
Eh bien, dans ce cas, cela nous laisse encore 2 jours pour chercher. Puis-je me permettre une suggestion ?
Dites toujours.
J'ai toujours constaté dans mon propre domaine, certes fort différent du vôtre, mais il est peut-être permis de généraliser, que de se polariser sur un problème précis était le plus sûr moyen de se décourager. Pourquoi ne pas plutôt vous détendre et parler d'autre chose ? Peut-être alors que votre inconscient, une fois débarrassé du poids de la concentration, résoudra le problème pour vous.
Trévis parut un instant ennuyé, puis il se mit à rire.
Eh bien, après tout, pourquoi pas?
Dites-moi, professeur,
d'où vous vient cet intérêt pour la Terre? Qu'est-ce qui a bien pu vous amener à cette idée bizarre d'une planète unique d'où tout aurait commencé?
Ah! L'afflux des souvenirs lui fit hocher la tête.
Cela remonte à un bout de temps. Plus de 30 ans. À mon entrée au lycée, je voulais être biologiste. J'étais alors passionné par le problème de la diversification des espèces sur les différentes planètes, Cette diversification, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez peut-être pas, et je vais me faire un plaisir de vous l'apprendre, est extrêmement réduite. Dans toute l'étendue de la galaxie, toutes les formes de vie, celles du moins que nous avons déjà rencontrées, procèdent de la même chimie des acides aminés fondés sur l'eau et le carbone.
J'ai fait l'école militaire, où l'on insiste plutôt sur la nucléonique et la gravitique, mais je ne suis pas tout à fait ignare dans les autres domaines, j'ai quand même quelques notions sur les bases chimiques de la vie. Et on nous a appris qu'elle n'était possible qu'à partir de l'eau, du carbone et des acides aminés.
Voilà, me semble-t-il, une conclusion injustifiée. Il paraît plus sûr de dire qu'aucune autre forme de vie n'a encore été découverte, ou à tout le moins reconnue, et s'en tenir là. Plus surprenant encore, les espèces indigènes, à savoir les espèces typiques d'une planète et qu'on ne retrouve pas ailleurs, sont fort rares. La plupart des espèces existantes, y compris Homo sapiens en particulier, sont répandues sur la plupart des mondes habités de la galaxie et sont en définitive fort proches les unes des autres, tant par la biochimie que par la physiologie ou la structure morphologique. En revanche, les espèces indigènes sont, par leurs caractéristiques, à la fois très éloignées des formes les plus répandues et très différentes entre elles.
Bon, et alors ?
Alors, la conclusion est qu'une planète bien précise dans la galaxie, une planète et une seule, doit différer de toutes les autres. Peut-être 10 millions de mondes dans la galaxie, nul ne sait au juste combien, ont donné le jour à la vie. Une vie primitive, une vie frêle et clairsemée, peu différenciée, subsistant avec peine et se propageant avec difficulté. Une planète, une seule et unique planète, a vu se développer la vie sous la forme de millions d'espèces, facilement des millions, dont certaines très spécialisées, hautement développées et particulièrement prédisposées à se multiplier et se répandre. Des millions d'espèces, y compris la nôtre. Nous fûmes assez intelligents pour bâtir une civilisation, inventer la navigation hyperspatiale et coloniser la galaxie. Et en essaimant à travers celle-ci, nous avons amené avec nous quantité d'autres formes de vie, des formes apparentées aussi bien entre elles qu'avec notre propre espèce.
Si l'on veut bien y réfléchir,
remarqua Trévise, modérément intéressé,
je suppose que tout ça paraît logique. Je veux dire, si l'on se place dans une galaxie humaine, si l'on suppose que tout a commencé sur une planète précise, alors cette planète devait forcément être différente. Mais après tout, pourquoi pas? Les chances pour que la vie se développe de cette manière explosive doivent être certainement très minces, peut-être 1 sur 100 millions. Et donc la probabilité que le phénomène soit apparu sur un monde abritant la vie est telle qu'il ne peut y en avoir guère plus d'un.
Oui. Mais qu'est-ce qui a rendu ce monde si différent des autres?
Lança Pellorat tout excité.
Quelles furent les conditions initiales qui l'ont rendu unique?
Peut-être le hasard, tout simplement. Après tout, l'homme et les formes de vie qu'il a apportées avec lui existent aujourd'hui sur des dizaines de millions de planètes qui toutes sont capables d'abriter la vie, et donc auraient pu tout aussi bien convenir.
Mais non! Dès lors que l'espèce humaine avait évolué, qu'elle avait développé une civilisation technique et s'était endurcie dans la dure lutte pour la vie, elle pouvait en effet s'adapter à n'importe quel écosystème planétaire pourvu qu'il soit suffisamment hospitalier. C'est le cas de Terminus, par exemple. Mais pouvez-vous imaginer qu'une vie intelligente ait pu se développer directement sur Terminus? Alors que, lorsque l'homme vint la coloniser à l'époque des encyclopédistes, sa forme de vie végétale la plus évoluée était une espèce de lichen tapissant les rochers. Quant au règne animal, il se réduisait à des sortes de petits récifs coralliens de l'océan, et en surface à des organismes vaguement insectoïdes. On a quasiment fait disparaître toutes ces espèces pour garnir à la place terre et mer de poissons, de lapins, de chèvres, de choux, de blé, d'arbres, et ainsi de suite. Nous n'avons rien laissé subsister de la vie indigène, hormis quelques spécimens dans les eaux et les aquariums.
Dit Trévise. Pellorat le dévisagea une bonne minute avant de remarquer avec un soupir.
Vous vous en fichez bien, pas vrai? Ah, c'est vraiment remarquable, je n'ai jamais trouvé une seule personne que cela intéresse en définitive. C'est de ma faute, je suppose. Je n'arrive pas à rendre la chose passionnante pour les autres,
même si ça me passionne, moi.
Mais si, Mais si, c'est passionnant, intervint Trévise. Bon, mais après, ça ne vous frappe donc pas qu'il pourrait être passionnant d'un point de vue scientifique d'étudier un monde où s'est développé le seul et unique écosystème vraiment florissant de toute la galaxie?
Peut-être, à condition d'être biologiste, ce que je ne suis pas, voyez-vous.
Il faut m'excuser.
Mais bien entendu, mon ami.
Le problème est que je n'ai pas trouvé non plus de biologiste pour s'y intéresser. Je vous ai dit que j'avais commencé une licence de biologie. J'en ai parlé à mon professeur et même lui n'a pas été intéressé. Il m'a conseillé de me tourner plutôt vers quelque chose de plus pratique. Ça m'a tellement dégoûté que j'ai fait de l'histoire à la place. C'était déjà de toute façon mon dada depuis l'adolescence pour pouvoir aborder la question des origines sous cet angle.
Mais, remarqua Trévise, ça vous aura du moins donné une vocation. Alors tout compte fait, ce manque de clairvoyance de votre prof devrait plutôt vous réjouir.
Oui. Je suppose qu'on peut voir la chose sous cet angle.
Et cette vocation est passionnante, et je ne m'en suis jamais lassée. Mais j'aimerais tant qu'elle vous passionne tout autant. J'ai horreur d'avoir cette perpétuelle impression d'être en train de soliloquer.
À ces mots, Trévise partit d'un grand éclat de rire, ce qui amena comme l'ombre d'un désarroi sur les traits autrement sereins de son compagnon.
« Pourquoi vous moquez-vous de moi ?»«
Pas de vous, Janoff. Je me moquais de ma propre sottise, non. Je vous devrais plutôt des remerciements. Vous aviez parfaitement raison, vous savez. »«
De relever l'importance de l'origine de l'homme ?»«
Non. Non, enfin si, ça aussi, non. Je voulais dire que vous avez eu raison de me conseiller de cesser de penser consciemment à mon problème et de me distraire l'esprit avec toute autre chose. Ça a effectivement marché. » Pendant que vous me parliez de l'histoire de l'évolution, je me suis finalement aperçu que j'avais un moyen de détecter ce fameux hyper-relais, s'il existe.
Oh, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est ma monomanie à moi, pour le moment. J'étais en train de chercher cet hyper-relais exactement comme si je me croyais à bord de mon brave vieux vaisseau-école, en l'examinant sous toutes les coutures, attendant qu'un élément disparate me saute aux yeux. J'avais complètement oublié que cet astronef est le produit de millénaires d'évolution technique. Vous ne voyez pas?
Non, Golan.
Nous avons un ordinateur à bord. Comment ai-je bien pu l'oublier? Et d'un signe de la main, il invita Pellorat à le suivre dans sa propre cabine. Je n'ai qu'à essayer tout simplement d'établir un contact, expliqua-t-il, tandis qu'il plaçait les mains sur la plaque sensible du terminal. Il leur suffisait de joindre Terminus à quelques milliers de kilomètres derrière eux. Cherche. Parle. C'était comme si des terminaisons nerveuses avaient jailli et s'étendaient, s'étiraient à une vitesse ahurissante. La vitesse de la lumière, évidemment, pour établir la jonction. Trévise se sentit lui-même effleuré, enfin pas exactement effleuré, plutôt sentir. Enfin, pas exactement sentir, plutôt... Mais peu importe, car il n'y avait pas de mot pour ça. Il avait littéralement Terminus au bout des doigts. Et bien que la distance entre lui et la planète s'accrût de quelques 20 km par seconde, le contact se maintint, comme si astre et vaisseau n'étaient séparés que de quelques encablures. Il ne dit rien, affermit sa prise. Tout ce qu'il essayait, c'était le principe de la communication sans communiquer activement. Là-bas, à 8 parsecs de distance, autant dire la porte à côté, se trouvait Anacréon, la plus proche planète d'une taille appréciable. Pour y expédier un message en employant le même moyen que pour Terminus à la vitesse de la lumière, puis pour en attendre la réponse, il lui aurait fallu 52 ans. Cherche Anacréon. Pense Anacréon. Pense-y le plus fort possible. Tu connais sa position par rapport à Terminus et au noyau galactique. Tu en as étudié la planétographie et l'histoire. Tu as résolu des problèmes stratégiques où il était nécessaire de la reconquérir, dans l'hypothèse impensable à l'époque où elle serait tenue par un ennemi. Par l'espace, tu es bien allé sur Anacréon. Alors visualise-la. Visualise-la. Grâce à l'hyper-relais, tu croiras y être.
Rien.
Ses terminaisons nerveuses frémirent, n'effleurant que le vide. Trévise rompit le contact. Il n'y a pas d'hyper-relais à bord de l'étoile lointaine, Janov. Je suis affirmatif. Et si je n'avais pas suivi votre suggestion, je me demande combien de temps il m'aurait fallu pour en arriver là. Sans qu'on vît bouger un seul muscle, le visage de Pellerat était devenu positivement radieux.
« Je suis si content d'avoir pu vous être utile. Cela signifie-t-il qu'on va faire le saut ?»«
Non. On attend quand même encore 2 jours, pour plus de sûreté. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, il faut être loin de toute masse. En temps normal, et compte tenu que c'est un vaisseau neuf et que je n'ai pas encore bien en main, il me faudrait sans doute 2 jours de plus pour calculer la procédure exacte, l'hyper-poussée convenable, en particulier pour le premier saut. J'ai le sentiment toutefois que l'ordinateur va se charger de tout.
Sapristi, voilà qui nous laisse le temps de nous ennuyer, ce me semble.
S'ennuyer ? Le sourire de Trévise s'épanouit. Manquerait plus que ça. Vous et moi, Janov, on va parler de la Terre.
C'est vrai ? Vous ne dites pas ça pour faire plaisir à un vieux bonhomme ? C'est gentil de votre part, franchement,
Baliverne. J'essaie surtout de me faire plaisir, Janov. Vous m'avez converti. Avec tout ce que vous m'avez raconté, j'ai enfin compris que la Terre était le plus important, le plus passionnant, le plus fascinant objet de tout l'univers.